Chapitre 2. Au cours des deux semaines suivantes, l'agence fut tellement débordée qu'Agatha oublia plus ou moins la réception. Après des périodes assez calmes, tout à coup, l'équipe coulait littéralement sous les dossiers. Chiens et chats perdus, adolescents en fuite, candidats au divorce en quête de preuves d'adultère, ainsi que les éternelles affaires de vol à l'étalage. Agatha mesurait sa chance de travailler avec des collaborateurs aussi fidèles qu'assidus. Elle employait la superbe Tony Gilmore, le bout en train Simon Black, Patrick Mulligan, le policier à la retraite, le vieux Phil Marshall, toujours aussi gentil, et Mrs. Friedman pour le secrétariat. Le jour où Ellen Toms l'avait appelée pour signaler que Charles n'avait pas répondu à son invitation, Agatha, submergée par le travail, avait réalisé qu'elle ne s'était pas encore acheté de nouvelles tenues. L'activité avait chassé de son esprit ses rêveries de collégienne. Après tout, ce n'était qu'une petite réunion assommante, avec chérie et plateau d'amuse-gueule. Agatha était loin de se douter qu'à l'échelle de l'obscur Cirque Magna, une visite de l'évêque était aussi prodigieuse qu'une participation de George Clooney à une vente de charité. Au village, les débats houleux se succédaient, portant sur des sujets aussi décisifs que l'installation de fanions en papier. En outre, Agatha aurait été très fâchée d'apprendre que deux célibataires, les sœurs Dupin, nourrissaient déjà des rêves romantiques à l'égard du révérend. Les jumelles, d'ailleurs, ne cessaient de chercher querelle sous n'importe quel prétexte. Ainsi, Millicent taxa le sacristain de vulgarité parce qu'il voulait suspendre des guirlandes lumineuses à l'entrée du clocher. Pour preuve de sa vulgarité, il l'invita à se fourrer ses fichues cloches là où je pense. Là-dessus, Peregrine Toms attrapa un rhume et ce fut le vicaire Harry Mansfield qui dut se charger de l'office le dimanche précédant la venue de l'évêque. Mansfield orienta son sermon sur l'amour du prochain et comme il possédait un véritable talent d'orateur, les villageois décidèrent d'enterrer l'âge de guerre. L'église, bâtie au XIIe siècle, était plutôt grande pour une localité de cette taille. Cirque Magna avait cependant abrité un château seigneurial par le passé dont les vestiges étaient toujours visibles à la sortie du village. La famille de l'ancien occupant, Sir Randolph Quentin, s'était ruinée à l'époque des croisades et l'église aurait pu connaître le même déclin que le château si les riches marchands de laine des Cotswolds n'avaient pas généreusement financé son entretien et sa rénovation. Julian Brodie était peut-être le seul à ne pas avoir été touché par le sermon du vicaire. En effet, il s'inquiétait beaucoup pour Ellen Toms, qui avait une ecchymose violette sur la joue. Probablement l'œuvre de sa brute de mari, supposa-t-il. L'office n'était même pas terminé quand il s'éclipsa pour aller faire un tour au presbytère, attenant à l'église. Sachant que la porte n'était pas verrouillée pendant la journée, il entra sans se gêner et se laissa guider par le bruit du téléviseur. Installé dans son bureau, Peregrine Toms regardait les courses de Cheltenham, un verre de whisky dans une main et un cigare dans l'autre. À ce spectacle, Julian sortit son téléphone et prit une photo avant que le pasteur n'ait pu l'apercevoir. Ébloui par le flash, Peregrine fit volte-face et se mit à vociférer.
« Qu'est-ce que vous fichez ?»«
Amusez-vous encore à frapper votre femme et j'affiche cette photo partout dans le village. Et en plus, elle sera postée sur Twitter. »«
Vous voyez bien que je suis malade !»
gémit Peregrine. « Je n'en doute pas un instant. » Et vous auriez grand besoin d'un bon psychiatre. Pauvre taré! Après le départ de Julian, Peregrine réfléchit à une solution. Il fallait à tout prix qu'Hélène récupère cette photo. La prochaine fois qu'il lui cognerait dessus, il s'arrangerait pour ne pas laisser de traces. L'évêque s'adressa ainsi à son doyen, Donald Whitby.
Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter cette visite à... Comment ça s'appelle déjà?
Cirque Magna. Et vous êtes obligé d'y aller. Le journal local a déjà sorti un article sur l'événement. En plus, vous m'avez dit que vous teniez à rencontrer la détective.
Eh bien, j'ai changé d'avis. Je parie qu'elle est du genre coriace.
Dans un nouveau restaurant de Mercer, Julian dînait aux chandelles avec Ellen Toms. L'initiative venait d'Ellen, et Julian, passé le premier instant d'euphorie, avait rapidement déchanté, en pensant que son ignoble mari l'avait chargé de lui piquer son téléphone pour supprimer la photo. Vers la fin du repas, alors qu'il n'avait parlé que de la pluie et du beau temps, Julian se pencha vers Hélène et prit sa main dans la sienne.
« Ne rentrez pas chez vous ce soir. »
Blanche comme un linge, sa compagne murmura.
« C'est d'accord. Je refuse que ce salaud récupère la photo. Et si jamais vous revenez sans, il va encore vous frapper. » Ma tante Maggie peut vous héberger pour la nuit. Elle habite à Mercer. Je vous ai acheté des affaires de rechange chez Marks & Spencer. Peregrine n'osera rien faire jusqu'à la visite de l'évêque. Et ensuite, je serai là pour m'assurer qu'il se tient bien.
Hélène retira doucement sa main.
Julian, je regrette beaucoup, mais je ne peux pas répondre à vos sentiments.
Les choses évolueront peut-être.
En attendant, allez dormir chez ma tante. Peregrine s'imaginera que vous êtes en train de me séduire.
Je vous donnerai la photo.
Mais d'abord, je veux en imprimer quelques exemplaires. Votre mari sera tellement enchanté qu'il se tiendra à carreau.
Comme des bacs de plantes fleuries séparaient les tables du restaurant, Hélène et Julian ne virent pas les sœurs Dupin filer en quatrième vitesse après avoir réglé leurs notes.
« Il faut avertir le pasteur, c'est notre devoir !»
décréta Millicent.
« Pendant que tu étais aux toilettes, je l'ai clairement entendu dire qu'elle voulait bien passer la nuit avec lui. Et là-dessus, ils ont relancé le disque d'Edith Piaf. Mais je sais quand même ce que j'ai entendu, allez !»« À mon avis, tu ferais mieux d'attendre demain !» lui conseilla Mavis. « Pas question ! En voyant qu'elle ne rentre pas, son mari va se faire du souci. Qui sait même s'il ne préviendra pas la police ? En tant que pilier de cette communauté, nous avons le devoir de l'avertir. Dans ce cas, vas-y toute seule !»
Cependant, Hélène Toms avait renoncé entre-temps à dormir chez la tante de Julian, si bien que Millicent, en retour de son indiscrétion, ne récolta qu'un gros bleu sur la joue assorti à celui d'Hélène.
Le pasteur, foudrage, lui avait balancé son poing dans la figure. « Je vais vous dénoncer à la police !» tonna Millicent. « Vous venez de frapper une Dupin !»
Le sergent de police Bill Wong, flanqué de son nouvel équipier Larry Jensen, passait par l'accueil du commissariat de Mercer lorsqu'il entendit Mavis et sa jumelle déposer plainte contre le pasteur de Cirque Magna.
« Je n'en reviens pas qu'il se comporte aussi mal !» tempêtait Mavis. « Juste avant la visite de l'évêque, il a osé lever la main sur une Dupin !»
À la grande surprise de Bill, Larry dit à l'officier de permanence « Laissez, je m'en occupe !» Bill Wong s'en alla aussitôt, car il avait rendez-vous dans un pub avec sa fiancée, l'agent Alice Peterson. Mi-anglais, mi-chinois, le jeune homme ne manquait pas de charme, mais il en était si peu conscient qu'il préférait ne pas voir son séduisant collègue traîner à proximité d'Alice. Il espérait donc qu'il ne penserait pas à les rejoindre, mais Larry fit son apparition quelques minutes après son arrivée au pub. Larry Jensen avait d'épais cheveux blonds, des yeux d'un bleu éclatant, et un visage au trait régulier légèrement bronzé après son séjour en Espagne.
Cette plainte tout à l'heure, ça m'avait tout l'air d'un différend privé, fit remarquer Bill. Je suis surpris que tu te sois impliqué.
Te raconterai de quoi il retourne à l'occasion.
Agatha ne pensait plus du tout à la visite de l'évêque.
Aussi, lâcha-t-elle un cri de panique en découvrant Mrs. Blugsby à sa porte, prête à l'accompagner à Cirque Magna. Elle commença par se lamenter.
Mince, je n'ai rien à mettre!
« Vous plaisantez ?» coupa son ami. « Vos placards débordent de vêtements. »«
Mais il fait un temps radieux. Je m'étais toujours imaginé dans une robe en mousseline vaporeuse avec une capeline en paille. »«
Vous savez, c'est une réception très modeste. L'évêque ne restera guère plus d'une demi-heure. Je vous conseille ce tailleur pantalon en soie vert pâle que vous avez acheté récemment. »«
Il faudrait déjà que je mette la main dessus. »«
Il n'est pas rangé dans votre penderie ?»
« À vrai dire, gémit Agatha, je ne me rappelle même pas l'avoir sorti de son sac, pourvu qu'il ne soit pas parti à la poubelle. »
Mrs. Blugsby, familière des retards d'Agatha, se garda bien de préciser qu'elle était passée la prendre une heure à l'avance, et elle réussit donc à atteindre Cirque Magna juste à temps pour l'arrivée de l'évêque. Les cloches de l'église répandaient leur cascade de sons sur le village.
« Pom, 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 pom !»
Agatha sentit le sol vibrer sous ses pieds. Le chauffeur de l'évêque descendit pour ouvrir la portière de la limousine et le révérend Peter Salver Hinckley fit son apparition, revêtu d'une longue soutane pourpre. Il était tête nue et un léger souffle de vent ébouriffa ses boucles noires illustrées. Son doyen, Donald Whitby, un homme trapu en soutane blanche, sortit par l'autre côté, couvert d'une étole surchargée d'ornements.
« Mrs. Raisin, « Vous voulez bien refermer la bouche ?»
s'écria Mrs. Blugsby.
Sa remarque tombait au mauvais moment, car le dernier écho des cloches venait tout juste de s'éteindre. Au même instant, les sœurs Dupin faisaient la course dans l'escalier du clocher
et Mévis fit un croc en jambe à sa jumelle, qui se contorsionna sur le sol en braillant de rage. Alors qu'Agatha s'avançait pour accueillir l'évêque, elle fut prise de vitesse par Peregrine Toms. Mais à la seconde, où il tendait la main à l'ecclésiastique, Millicent se faufila sous son bras en claironnant « Soyez le bienvenu, je suis Millicent Dupin !» L'évêque, qui dominait l'assemblée de sa haute taille, repéra immédiatement Agatha et demanda « Je peux savoir qui est cette dame ?»«
Oh, ce ne sont pas les badauds qui manquent aujourd'hui !»
écouta Peregrine.
« Venez donc au presbytère, vous aurez sans doute plaisir à boire quelque chose !»«
Tiens, mais c'est Alf Blugsby ?» enchaîna l'évêque, sans se soucier du pasteur. « Dis-moi, Alf, tu veux bien me présenter cette dame ?»«
C'est Agatha Raisin. Elle habite notre village, et voici mon épouse. »«
Il faudra que vous veniez dîner un de ces jours, et vous amènerez la célèbre détective avec vous. »« Mrs. Raisin, j'ai beaucoup entendu parler de vous. »
« Appelez-moi Agatha, je vous en prie. »
Elle avait l'impression d'être une adolescente en plein coup de foudre.
« Allons chercher quelque chose à boire, » suggéra Peter, en glissant son bras sous le sien.
Il l'entraîna vers l'allée du presbytère, ignorant Millicent qui lâchait d'un ton plaintif.
« Quelle traînée !»«
Dieu du ciel !» s'inquiéta Mrs. Blugsby. « Mrs. Raisin va encore s'engrener dans une de ses obsessions. Si seulement Sir Charles était là, ses sarcasmes pourraient l'attirer de ce mauvais pas. » C'était sans doute la première fois qu'Agatha Raisin concentrait sur sa personne la haine de tant de femmes, et elle eut la faiblesse de se réjouir des jalousies qu'elle suscitait. D'un autre côté, elle se demandait si le superbe évêque n'était pas un peu gai. Sous les plis de la soutane, elle devinait son corps souple et musclé. Elle remarqua que le doyen, Donald Whitby, avait attrapé Peter par la manche pour attirer son attention. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda ce dernier, pilant si brusquement qu'Agatha tituba sur ses talons aiguilles.
Les sœurs Dupin sont les reines de ce patelin, siffla Whitby. Et vous les traitez comme des moins que rien. Une des deux a déjà fondu en larmes.
Désolée, Agatha, fit Peter. Je m'étais laissé prendre à vos charmes. Nous nous reverrons tout à l'heure.
Agatha le regarda aborder les jumelles. C'était Mévis qui pleurait. Et l'évêque lui offrit un mouchoir qu'elle serra contre sa poitrine. Elle le connaissait déjà? Demanda Agatha. «
Non, pas que je sache. On dirait une fan d'Elvis qui rencontre enfin son idole.
Sauf qu'il faut être mort pour rencontrer Elvis. Tiens, regardez qui est là !»
Charles s'approcha tranquillement.
« Je n'avais jamais vu autant de femmes énamourées. Et tu fais partie du lot, Aggie.
Qu'est-ce qui vous attire comme ça ?»«
Il est quand même sexy !» fit valoir Agatha.
« Moi, je le crois dangereux. J'ai fait quelques recherches. » sur la riche héritière Jennifer Tunby. Le soir où elle a disparu, elle assistait à une fête au palais épiscopal. Personne ne l'a jamais revue.
Et les soupçons se sont portés sur l'évêque?
Non, pas vraiment. D'après ce qui s'est raconté, les gens pensaient qu'il allait l'épouser. Le bruit a couru qu'ils avaient même consulté un avocat, celui de la fille, pour finaliser le contrat de mariage. Possible que ça l'ait vexé. Il croyait peut-être que le prestige de la robe le plaçait au-dessus des sordides histoires d'argent. Il se peut... Oh, la voici qui arrive. Et les deux femmes qui trottinent derrière lui se sont échappées d'une fresque médiévale.
Tout à coup, Agatha eut pitié des sœurs Dupin. De toute évidence, elles s'étaient offert des vêtements neufs pour l'occasion, en tout point semblables au reste de leur garde-robe. Il existait à Mercer deux ou trois boutiques pour dames, qui proposait essentiellement des ensembles coloris tristounets. Malgré la chaleur de ce début de soirée, Millicent portait une jupe en flanelle et un cardigan en laine sur un chemisier en soie, le tout dans des teintes bourbeuses. Mévis avait fait preuve de plus de fantaisie, vêtue d'une longue robe violet foncé, mais l'encolure trop plongeante laissait deviner sa maigre poitrine piquetée de taches de rousseur. Agatha empoigna le bras de Charles, qui tentait de s'esquiver, et se débrouilla pour le présenter aux sœurs Dupin. Clouée sur place par l'effet magique de son titre, elles ne tardèrent pas à se disputer son attention.
Pas moyen de bavarder avec vous, se plaignit l'évêque à Agatha. Dès que j'essaie, il faut que quelqu'un vienne me déranger.
Oui, Peregrine, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous souhaiteriez peut-être quelque chose d'un peu plus corsé que le champagne.
Vraiment? On se croirait à la table du chapelier fou ici. Je vous fais remarquer qu'on ne m'a pas servi de champagne, ni quoi que ce soit d'autre. Soyez gentil et allez me chercher un whisky. Et pour vous, Mrs. Raisin ?
Agatha, je vous en prie. Je prendrai un gin tonic.
Peregrine tourna les talons et on l'entendit bientôt appeler son épouse à grands cris.
Est-ce que c'est très courant parmi les gens d'église ?
Quoi donc ? La consommation d'alcool ?
Non, je parlais plutôt des violences conjugales.
Notre pasteur ici présent brutalise sa femme. Vous voudrez bien lui en toucher un mot ? Oh, il se contentera de nier les faits. C'est à elle de prendre les choses en main. Ma chère Agatha, j'adore la tenue que vous portez. Vous avez la fraîcheur d'une salade. Accepteriez-vous de dîner avec moi demain ?
Je me permets de vous rappeler qu'on sera dimanche.
Justement, j'ai la soirée pour moi. Le doyen s'occupera de tout. 8 heures, ça vous convient ? Laissez-moi votre carte et je passerai vous chercher.
C'est entendu,
fit Agatha. Et elle ajouta, remarquant les jumelles qui se hâtaient dans leur direction.
À condition que vous fassiez une petite chose pour moi.
Soyez aimable avec les sœurs du pain. En règle générale, Agatha n'était ni tendre ni charitable, mais l'admiration que lui témoignait l'évêque lui avait donné envie de répandre la joie autour d'elle. Soulagée, elle vit Peter lui sourire en hochant la tête et il consacra aussitôt toute son attention aux jumelles. Charles l'attira par le bras.
« Tu es en train de rater le fantastique buffet qu'ils ont servi au salon, l'œuvre d'un chef français, soi-disant.
Je te suis alors. Raconte-moi tout sur les contrats de mariage.
Laisse tomber, tu veux. Tu comptes épouser un évêque ?
Pas moi, non. Mais Peter fréquentait une héritière qui a disparu sans laisser de traces. Cette histoire m'intrigue.
Mauvaise idée, sauf si quelqu'un te rémunère pour enquêter.
En tout cas, ça me changerait de ma morne routine.
Agatha s'immobilisa devant l'entrée du presbytère.
Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, souffla-t-elle.
Tu ferais mieux d'entrer, au lieu de rester planté là à écouter ton intuition.
Pour faciliter l'accès au salon, on avait laissé la porte-fenêtre grande ouverte. Deux serveuses circulaient parmi les invités avec des coupes de champagne et un assortiment de toasts. Très rapidement, Agatha réussit à identifier la source de son malaise. À l'autre bout du salon, un homme séduisant s'adressait au pasteur d'un air furieux. Hélène se tenait auprès d'eux au bord des larmes. Agatha s'empressa de la rejoindre.
« Hélène, c'est justement vous que je cherchais !»
Elle la prit fermement par le bras et l'entraîna vers la pelouse. « Il y a un problème ? Vous êtes toute pâle et vous avez l'air consternée. Qui c'était ce bel homme avec vous ?»«
Julian Brody. »«
Ah, celui qui vous a évité de préparer le buffet en embauchant son copain !»«
C'est bien lui !»
murmura Hélène. Un souffle de vent fit voler son étole en mousseline, dévoilant les ecchymoses noirâtres qui marquaient ses avant-bras. On aurait dit qu'elle avait été immobilisée de force et... violée. Agatha sentit enfler en elle une vague de colère et elle interpella cavalièrement l'évêque. Peter Salver Hinckley s'approcha à grands pas, les jumelles pendues à ses basques.
Dites-moi, ça ne vous gênerait pas de donner votre bénédiction à un pasteur qui viole sa femme ?
Bien sûr que si, voyons. Dans un cas pareil, j'alerterai la police.
Imaginez que la femme ait trop peur pour porter plainte.
Qu'est-ce que vous feriez à ma place, Agatha ? Je suis curieux d'entendre votre opinion. Manifestement, l'évêque n'avait plus du tout envie de se trouver mêlé aux embrouilles conjugales d'un pasteur.
Moi, je suis en faveur du meurtre, affirma Agatha. Il faudrait que quelqu'un se charge de supprimer Peregrine Toms.
Un silence choqué salua sa réponse. Puis Mavis protesta.
« Enfin, notre pasteur est la bonté en personne !»
Agatha crut bon de préciser, trop heureuse de se montrer sous un jour grossier, brutal et imbuvable.
« Et en plus, j'éclaterai la tête de quiconque prendrait sa défense !»
Un peu plus tôt, elle avait avalé 2 verres de gin tonic sans avoir rien mangé. Les effets de l'alcool se dissipant à toute vitesse, elle remarqua une ombre de dégoût dans le regard de l'évêque, et constata qu'Hélène était devenue blême. Il fallait qu'elle ait perdu la tête pour tenir des propos pareils. Mais d'un autre côté, Peregrine Toms ne pouvait pas continuer dans cette voie. Cependant, Agatha regretta bientôt d'avoir soutenu Hélène, car celle-ci prétendait qu'elle n'avait fait qu'aggraver la situation. Encadrée par les sœurs du pain, l'évêque, beaucoup plus grand qu'elle, ressemblait à un navire traîné vers le rivage par 2 remorqueurs. Avec un sourire, il s'excusa auprès d'Agatha. Je suis sincèrement navrée, mais il se trouve que j'ai déjà un engagement pour ce dimanche. Ça m'était complètement sorti de l'esprit. Je vous contacterai dès que je serai disponible.
Bravo et merci !»
lança Agatha à Hélène, qui éclata immédiatement en sanglots.
« Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qu'on accuse ? Fichez-moi la paix, espèce de sale fouineuse !»«
Bon, on s'en va d'ici, » décida Charles. « Franchement, Agatha, tu as été odieuse. Mais je dois admettre que tous ces gens sont 100 fois pires que toi. Ton évêque a des pieds d'argile. Crac, crac, crac. Je parie qu'il est homo et qu'il se défoule sur son doyen.
Uniquement le dimanche, » répliqua une voix amusée. Surpris, Charles découvrit l'évêque en personne derrière son dos. « Alors, Sir Charles, vous comptez punir le pasteur ?»«
Je pensais plutôt le castrer. Allez, viens, Aggie. »«
Arrête de m'appeler Aggie !»
Alors qu'il s'éloignait, l'évêque les suivit du regard, notant qu'Agatha avait de longues jambes et des fesses rebondies. Tout compte fait, il renouvellerait peut-être son invitation. Assommé par cette réception au presbytère, il décida de partir lui aussi.
« Je t'interdis de t'approcher à nouveau des Toms !»
déclara Charles, vautré sur le canapé d'Agatha. « Hélène Toms est typiquement le genre de femme qui fabrique les assassins.
Tu as vu cet avocat ? Il est absolument fou d'elle !»«
Par contre, personne n'est fou de moi. Comme tu l'as entendu, l'évêque a annulé notre rendez-vous. »
Sur ces entrefaites, le téléphone sonna.
« Je réponds !» dit Charles. « Dis-moi simplement qui tu préfères éviter. » « Tout le monde !»
Charles se demandait bien pourquoi Agatha avait fait placer la ligne dans l'entrée et ajouter 2 postes dans la chambre et dans la cuisine, alors qu'il n'y en avait pas au salon. « Je pourrais parler à Mrs. Raisin ?» demanda une voix à l'autre bout du fil.
« Je regrette, mais elle est absente pour la soirée. »«
Je suis Peter Salver Hinckley, et vous êtes ?»«
Charles Fraisse, le fiancé d'Agatha. »
« Je vois, nous nous sommes croisés. » « Dites-lui de ma part que j'ai réussi à me libérer pour ce dimanche et que je passerai la chercher à 20h. »«
Pas question. Bonne soirée. » »«
Qui c'était ?» voulut savoir Agatha lorsque Charles revint au salon.
« Du démarchage pour des doubles vitrages. »
Avec sa désinvolture habituelle, Charles ne pensa plus du tout à ses mensonges. Et ce fut donc une Agatha sidérée qui découvrit l'évêque sur le pas de sa porte le lendemain soir sur le coup de 8h.
« Notre dîner, » le rappela Peter. « Votre fiancé ne vous a pas prévenu ?»«
Quel fiancé ? Je ne suis fiancée à personne, voyons. »«
Charles Fraisse. »«
Ah non, certainement pas à lui !»«
Parfait.
Allons-y alors. Je ne peux pas sortir dans cette tenue, » objecta Agatha, attifée d'une vieille robe d'intérieur.
« Dans ce cas, il ne vous reste qu'à vous changer et nous voilà partis, »
fit Peter avec un grand sourire. Agatha se prépara en un temps record, optant pour un pantalon en velours noir et un chemisier en mousseline fuchsia à col volanté. C'était la première fois qu'elle portait ce haut, qui avait l'avantage d'être flatteur pour le teint et relativement sobre. Il lui sembla apercevoir une lueur de concupiscence dans les yeux de Peter, mais elle mit son impression sur le compte de l'éclairage.
« Un restaurant grec s'est ouvert à Merceuster, » lui annonça-t-il. « Il paraît qu'il est très bien. »
J'espère qu'ils servent leurs plats bien chauds. L'année dernière, j'ai passé mes vacances en Grèce et les plats arrivaient tout juste tièdes.
Pauvre touriste naïf, se moqua Peter. À l'étranger, il faut faire attention où on met les pieds.
Pas la peine d'être condescendant, répliqua sèchement Agatha.
J'ai eu tort de l'inviter à dîner, regretta Peter en son fort intérieur. Fichu caractère. Enfin, tant pis. On va expédier ça vite fait. Et puis j'appellerai mon chauffeur pour qu'il me débarrasse d'elle. »
Il se gara sur le parking, derrière le restaurant, et ouvrit la portière à Agatha. Des haut-parleurs braillaient des airs de musique traditionnelle, et un jeune homme en costume d'Evzone, les gardes de cérémonie grecque, paradait devant l'entrée avec un fusil factice.
« On dirait une ballerine qui va danser le lac des Cygnes. Cet endroit m'a tout l'air d'un repère à touristes !»
glissa fielleusement Agatha. Peter ne releva pas. Il s'était fait à l'idée que cette femme n'était qu'une perte de temps, et il lui tardait simplement que la soirée se termine.
« Il paraît que la cuisine est très bonne, » dit-il seulement.
On les installa à une table qui faisait face à un grand miroir. À cause de la chaleur, Agatha était sortie sans veste ni manteau, et elle constata dans la glace que son chemisier neuf était tout transparent, laissant deviner au-dessous son soutien-gorge en dentelle noire. Presque aussi rose que son chemisier, elle chuchota «
Prêtez-moi votre veste !»
Ma veste ? Pourquoi donc ? Répondit Peter, feignant de ne rien comprendre.
« Normalement, ce chemisier débile se porte avec un dessous, et j'ai oublié de le mettre. »«
Oh, je vois. » Il retira sa veste en lin blanc pour la lui faire passer.
« Bien, je vais commander pour nous deux. » Agatha aurait volontiers rétorqué qu'elle préférait choisir elle-même, mais elle était trop gênée par son chemisier transparent pour oser protester.
On leur servit donc des dolmades, suivis d'une moussaka, et les deux plats arrivèrent à peine tièdes. Peter voulut prendre une carafe de Rezina, mais Agatha, qui lui trouvait un goût de white spirit, commanda un rouge ordinaire à la place.
Vous êtes sur une affaire intéressante, s'enquit Peter.
Son visage harmonieux exprimait un ennui savamment étudié, si bien qu'Agatha ne put s'empêcher de lui répondre. En effet, et le plus drôle là-dedans, c'est qu'elle n'a pas été confiée à mon agence. Il s'agit de l'héritière disparue, Jennifer Toynbee.
En quoi ça peut bien vous concerner ?
Cette histoire est tellement flamboyante. Vous vous rendez compte ? Un évêque et une héritière.
À en croire la rumeur, vous étiez sur le point de l'épouser.
Quelle idée ! Elle s'est juste montrée assez généreuse envers l'église et le doyen m'a incité à passer un peu de temps avec elle. Elle avait déjà un petit ami attitré, une espèce de fermier avec un physique de taureau. Ils allaient se marier quand elle a disparu. Si vous voulez bien m'excuser.
Peter sortit son portable et s'éloigna de quelques pas, parlant très fort pour dominer le vacarme des haut-parleurs qui diffusait maintenant Zorba le grec. Par politesse, le serveur baissa le son à l'instant où l'évêque disait
« Oui, John, je vous demande de venir avec la limousine et de reconduire mon invité à Kersley. »
Il eut beau baisser la voix, Agatha l'entendit ajouter d'un ton pressant.
« Mon pauvre, vous n'imaginez pas comme c'est barbant. Vous êtes à deux pas d'ici ? Formidable !»
Agatha avait déjà croisé des professionnels de la goujaterie, mais on ne l'avait jamais accusée d'être barbante. Malgré son âge, elle se sentit tout à coup aussi vulnérable qu'une adolescente. Vu qu'elle n'avait jamais eu une très haute opinion de son physique, il ne lui vint même pas à l'idée que c'était seulement ses questions qui incommodaient l'évêque.
« Nous parlions de l'héritière disparue, »
fit-elle, dès que Peter se fut rassis.
« C'est vous qui en avez parlé, pas moi. Tiens, voici mon chauffeur qui arrive. » Une affaire urgente me rappelle chez moi, mais bien entendu, je vais régler la note avant de partir.
Ce ne fut qu'en descendant de voiture qu'Agatha s'aperçut qu'elle portait toujours la veste de l'évêque. Tout compte fait, elle était reconnaissante à Charles de ne pas l'avoir averti de l'appel de Peter. Au moins, elle n'avait pas eu le temps de se bercer d'illusions romantiques. Les choses étant ce qu'elles étaient, elle avait moins de mal à admettre que l'évêque n'était qu'un bel âtre arrogant qu'on pouvait parfaitement oublier.